Il est 4h en temps universel, vous écoutez Radio France Internationale, 5h ici à Paris. Un nouveau journal, Clotilde Dumay, bonjour.
Bonjour Edouard, bonjour à tous. Dans ce journal, 31 morts hier au Liban dans des frappes attribuées à l'État hébreu. Le cabinet de sécurité israélien doit se prononcer aujourd'hui sur un éventuel cessez-le-feu. La guerre continue aussi dans la bande de Gaza, en particulier dans le nord, où même les ambulances ne peuvent plus se déplacer. Les civils doivent donc eux-mêmes assurer les gestes de premier secours face à des blessures souvent très graves. Reportage à suivre. C'était attendu, la justice américaine abandonne les poursuites contre Donald Trump concernant les soupçons d'ingérence dans les résultats de la présidentielle de 2020. À la une également, le démantèlement en Côte d'Ivoire d'un réseau terroriste qui prévoyait de rejoindre l'Europe. Et puis en France, l'Assemblée nationale va se prononcer aujourd'hui sur le traité de libre-échange avec le Mercosur, alors que les agriculteurs ont entamé une deuxième semaine de mobilisation. Des civils livrés à eux-mêmes dans le nord de la bande de Gaza, obligés de s'improviser secouristes pour arrêter des hémorragies ou bien soigner des blessures afin de sauver leurs proches blessés dans des bombardements israéliens. Le nord de l'enclave palestinienne subit un siège dans le siège depuis octobre dernier. Les ambulances du Croissant Rouge palestinien ne peuvent plus s'y rendre, alors c'est à distance, par téléphone, depuis la Cisjordanie occupée, que les secouristes guident les civils pour effectuer les gestes de premier secours. Reportage de Sami Boukhelifa au siège du Croissant Rouge palestinien à Ramallah.
Un appel de détresse. Au bout du fil, Ala Abou Sakar, 24 ans. Sa maison à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, vient d'être bombardée par l'armée israélienne. Autour d'elle, 12 membres de sa famille, hommes, femmes et enfants, tous à terre. Certains sont blessés grièvement, d'autres ensevelis sous les décombres. Cela s'est passé le 10 octobre dernier. C'est Nihal Kurdi, infirmière secouriste, qui a pris cet appel.
La jeune fille qui a appelé m'a dit qu'elle était la seule à être consciente. Elle criait et pleurait. La première chose à faire était de la calmer afin qu'elle puisse aider sa famille. Elle m'a dit « Certains sont sans doute morts, d'autres présentent des brûlures et il y a un cas d'hémorragie ». J'ai dit « Ça ne va pas être facile, mais on va faire un tri. Priorité aux blessures graves. Décris-moi l'hémorragie ». Elle a répondu « Ça gicle de partout ». Je lui ai demandé de trouver un bout de tissu propre ou une ceinture et de serrer de toutes ses forces.
Peine perdue, il s'agissait d'une jambe sectionnée à la cuisse au niveau de l'artère fémorale. La personne est décédée en quelques minutes. Mais le drame se poursuit. 24 heures après la frappe, Ala Abou Sakar et ses proches survivants sont contraints par l'armée israélienne à un déplacement forcé vers la ville de Gaza, où elle se trouve en ce moment.
Le jour du bombardement, j'ai perdu mon mari, ma belle-mère et un cousin. 5 jours plus tard, une de mes cousines est décédée des suites de ses blessures. Notre maison a été directement ciblée par une frappe. Je vous jure que nous sommes de simples civils. Nous n'avons aucun lien avec aucun groupe ou faction armée.
Les appels d'urgence de Gaza sont transférés vers Ramallah car presque tous les centres du Croissant Rouge dans le territoire en guerre ont été bombardés. Selon le ministère de la Santé à Gaza, plus de 1000 médecins, infirmiers, aides-soignants et ambulanciers ont été tués par Israël depuis le début de la guerre. Sami Boukhelifa de retour à Jérusalem. RFI.
Et concernant la guerre au Liban, cette fois contre le Hezbollah, le cabinet de sécurité israélien doit se prononcer aujourd'hui sur un cessez-le-feu. Un accord est proche, d'après les États-Unis. Les négociations ont avancé significativement, ajoute la présidence française. On va y revenir dans les prochains journaux au cours de cette matinée. Après la victoire électorale, la victoire judiciaire pour Donald Trump aux États-Unis, une juge fédérale a validé l'arrêt des poursuites qui visaient le président élu pour ingérence dans les résultats du scrutin de 2020. La juge a suivi les recommandations du procureur spécial qui renonce aussi à poursuivre Donald Trump pour rétention de documents classifiés après son départ de la Maison-Blanche en 2021. Pendant ce temps, le procureur fédéral de Manhattan lui démissionne avant le retour du président républicain. Donald Trump avait d'ailleurs annoncé à Rimlipold vouloir remplacer Damien Williams.
Damien Williams ne partira pas le cœur léger. Aujourd'hui est un jour doux amer pour moi, a écrit le procureur général de Manhattan en annonçant sa démission. Premier magistrat afro-américain à occuper ce poste prestigieux, il avait été nommé par le président Joe Biden. Damien Williams laisse derrière lui un bilan marquant et des affaires très médiatisées. Il a notamment mené des inculpations contre le rappeur P. Diddy, accusé d'exploitation sexuelle et contre le maire démocrate de New York, Eric Adams, soupçonné de corruption. Durant ses 3 ans à la tête du parquet de Manhattan, il a également obtenu la condamnation de Sam Bankman-Fried, l'ancien roi des crypto-monnaies. Avec l'élection de Donald Trump, Damien Williams savait que ses jours en tant que procureur fédéral étaient comptés. Le président élu a déjà annoncé qu'il comptait le remplacer par Jay Clayton, l'ancien patron de la commission des opérations de bourse. Un choix qui s'inscrit dans la stratégie de Donald Trump de placer des proches à des postes clés de la justice.
À Rimley-Pold, la cérémonie d'investiture de Donald Trump, elle est prévue le 20 janvier prochain. Et la Maison-Blanche a fait savoir que Joe Biden serait présent. Donald Trump, lui, a annoncé les premières mesures économiques qu'il allait prendre dès son entrée en fonction. Il veut fixer des droits de douane à 25% pour les produits venant du Canada et du Mexique. Et il veut les augmenter de 10% en plus de ce qui existe déjà pour les produits chinois. Personne ne gagnera une guerre commerciale, prévient ce matin Pékin. Plus de 40 000 personnes déplacées en 10 jours à Port-au-Prince en Haïti en raison d'une nouvelle flambée des violences liées aux gangs. C'est la pire vague de déplacements depuis 2 ans, selon l'Organisation internationale pour les migrations. En Côte d'Ivoire, les autorités confirment le démantèlement d'un réseau terroriste en juillet dernier à Abidjan, d'après le journal français Le Monde qui révèle ces informations. 6 personnes originaires d'Irak et de Syrie liées au groupe État islamique ont été arrêtées dans la capitale économique ivoirienne. Ces suspects prévoyaient de rejoindre l'Europe. Ils avaient des connexions jusqu'à Madagascar où des membres du même réseau ont aussi été interpellés avec l'appui des renseignements français et américains. Les précisions de Sidi Yansane.
Une source gouvernementale ivoirienne confirme discrètement à RFI que l'unité antiterroriste a bel et bien arrêté 6 hommes irakiens et syriens dans la commune de Koumassi à Abidjan le 28 juillet dernier, et ce grâce aux renseignements des services secrets américains. Selon le quotidien Le Monde, à l'origine de ces révélations, l'opération a permis la saisie de faux papiers et d'une 30aine de cartes SIM dans l'appartement des suspects, plus tard interrogés par les services ivoiriens et leurs partenaires américains qui les soupçonnaient de projeter un attentat aux Jeux Olympiques de Paris. En même temps que les interpellations à Abidjan, une opération similaire se déroulait 6200 km plus loin, à Madagascar. Les services malgaches épaulés par la DGSE française mettaient la main sur 2 autres membres du même réseau. Toujours selon Le Monde, les renseignements américains et français suivaient ces suspects depuis des mois pour leur lien avec l'organisation État islamique. Abidjan et Madagascar sont déjà confrontés au djihadisme venu du Sahel et du Mozambique, mais c'est la première fois que la présence de terroristes présumés directement originaires du Moyen-Orient est reconnue par les autorités ivoiriennes.
Sidi Yansane, RFI, a contacté les autorités françaises et malgaches qui n'ont pas souhaité faire de commentaires. Deuxième semaine de mobilisation des agriculteurs en France. Ils ont déversé des pneus et du fumier devant la préfecture d'Arras dans le nord. Plus à l'est, ils ont bâti un mur en parpaing devant la préfecture des Ardennes. Bref, les actions se poursuivent un peu partout dans le pays, toujours pour dénoncer le traité de libre-échange que l'Union européenne négocie avec les pays latino-américains du Mercosur. L'Assemblée nationale, de son côté, va débattre sur ce traité cet après-midi avant un vote. C'est important pour Laurence Marandre, la porte-parole de la Confédération paysanne, mais ce n'est que le début.
Aujourd'hui, ce qu'on voit avec ce vote à l'Assemblée, c'est qu'enfin, il y ait un débat démocratique sur le sujet qui engage l'avenir de l'agriculture, mais globalement l'avenir de la société, quel modèle de commerce on veut. Et c'est ça qui est important. Donc ce vote aujourd'hui, il est très important, mais ce n'est pas l'aboutissement de la démarche. Il faut que, fort de ce vote, si c'est un refus, le gouvernement aille à Bruxelles et obtienne l'arrêt des négociations et d'enterrer cet accord. C'est vraiment cette étape-là que signifie le vote aujourd'hui, pour plein de raisons agricoles, la qualité de l'alimentation, le climat, doit absolument être cessé. Il en va de la survie d'un certain nombre de paysannes, de paysans, de fermes dans notre pays, parce que signer des accords de libre-échange, c'est de concurrence tirée vers le bas, c'est l'inverse de ce dont on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est du revenu, de prix garantis, de revenus et de faire face aux aléas climatiques et sanitaires et protéger notre santé.
Laurence Marandola de la Confédération paysanne, interrogée par Anne Verdaguet. À l'issue de la première semaine de mobilisation des agriculteurs, les préfets du Lot-et-Garonne et des Landes dans l'Ouest ont porté plainte pour des dégradations, tout comme l'Office français de la biodiversité dans la Creuse. Il est 4h09 en temps universel. Le gouvernement danois sous pression. Des manifestations ont été organisées ce week-end à Copenhague et à Nuuk au Groenland à la suite d'une nouvelle affaire dans laquelle une mère groenlandaise s'est vue retirer son bébé 2 heures après l'accouchement. En cause, les tests dits de compétences parentales qui, selon les militants, sont discriminatoires. Les explications d'Otilia Ferret.
Elle s'appelle Kera Alexandra Granvold et elle a 38 ans. Le 7 novembre dernier, cette femme d'origine groenlandaise a accouché de son 3e enfant dans le Jutland, au Danemark. Sauf que 2 heures après, son bébé lui a été retiré. Pourquoi ? Parce qu'elle a raté les tests psychométriques qui sont largement utilisés au Danemark dans le cadre des enquêtes de protection de l'enfance. Désormais, Kera ne peut passer qu'une heure par semaine avec son bébé, une heure sous haute surveillance par une assistante sociale. Déjà en 2014, elle avait perdu la garde de sa fille de 9 ans et de son fils de 8 mois après un test similaire. Pour ce 2e test, elle raconte au Guardian que cette fois-ci, il s'agissait de voir si elle était, je cite, « assez civilisée ». Le problème, c'est que Kera ne serait qu'un cas parmi beaucoup d'autres. Des militants dénoncent ces tests psychométriques comme étant discriminatoires et culturellement inadaptés aux Groenlandais ainsi qu'à d'autres minorités. Dans le cas de Kera, par exemple, les évaluations psychologiques ont été réalisées par un psychologue en danois. Et Kera ne parle pas couramment danois. Selon un rapport de 2022, 5,6% des enfants d'origine groenlandaise vivant au Danemark sont placés, contre seulement 1% de ceux d'origine danoise. De leur côté, les autorités danoises estiment que le test de compétences parentales est loin d'être le seul outil utilisé pour évaluer si un enfant doit être retiré à ses parents ou non. Otilia Ferré, Stockholm, RFI.
Et puis en football, début de la 5e journée de Ligue des Champions. Et pour éloigner le risque d'une élimination, eh bien le Paris Saint-Germain doit s'imposer ce soir face au Bayern Munich, l'autre club français du jour. C'est Brest qui se déplace à Barcelone. Voilà pour le journal, on reste ensemble pour une 20aine de minutes. On va aller sur le continent américain où l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique pourrait bien être renégocié. Dans un contexte, je vous en parlais, de guerre commerciale avec la Chine, eh bien le Mexique est accusé par ses voisins de servir de plateforme tournante des produits chinois pour le marché nord-américain. Sur le continent africain, cette fois, rencontre avec l'artiste Tonton Kabeya. Son travail est exposé à la Biennale de Dakar. Et puis le Conseil Santé de Caroline Paré qui va revenir sur les violences contre les femmes au lendemain de la journée mondiale consacrée à ce sujet. Mais d'abord, on part sur le continent européen. Elle sort du silence après s'être retirée de la vie publique en 2021. Angela Merkel se confie dans ses mémoires en librairie à partir d'aujourd'hui en Allemagne et dans plusieurs pays d'Europe. Des mémoires d'autant plus attendues dans un pays bouleversé par les conséquences de la guerre en Ukraine et qui remet en cause de plus en plus le bilan de l'ancienne chancelière. Désormais, les Allemands portent un regard bien plus critique sur les années Merkel. À Berlin, un reportage de Delphine Nerbollier.
Évoquez son nom et vous aurez toute une série de commentaires, comme celui d'Eva, 65 ans, rencontrée sur le quai d'une gare.
Je trouve qu'elle a été trop longtemps au pouvoir. Elle ne pouvait plus s'adapter.
Chez les plus jeunes aussi, le nom d'Angela Merkel laisse peu indifférent. Ils n'ont quasiment connu qu'elle à la tête du pays, elle qui y a passé 16 années. Cela a laissé des traces chez cette jeune berlinoise.
Ich finde sie sehr sympathisch.
Je la trouve très sympathique. Elle a été synonyme de stabilité et cela me manque un peu actuellement. Mais après coup, quand on pense qu'elle est restée 16 années au pouvoir, très peu de choses ont été faites. Et je trouve ça vraiment dommage.
3 ans après son départ de la politique, le regard porté sur l'ex-chancelière s'est modifié. Et pas forcément dans le bon sens. En 2021, lorsqu'elle a raccroché les gants, Angela Merkel laissait un pays stable, en bonne forme économique et qui était saluée pour avoir accueilli des centaines de milliers de réfugiés en 2015 et 2016. 3 ans plus tard, la guerre en Ukraine a révélé la trop grande dépendance du pays envers le gaz russe et modifié de fond en comble le modèle énergétique et économique du pays. L'Allemagne est en récession, l'immigration illégale devient un poids pour de nombreux citoyens et l'extrême droite progresse. Nous joignons Stéphane Cornelius à Munich.
Alors.
Il est éditorialiste au journal Süddeutsche Zeitung et auteur d'une biographie de l'ex-chancelière.
Angela Merkel Angela Merkel a tout fait pour que l'Allemagne reste en dehors des crises du monde. Sur le principe, maman s'en occupe, tout va bien. Son plus grand échec est peut-être justement de ne pas avoir préparé l'avenir, d'avoir négligé la politique sécuritaire et de défense.
Dans ce contexte, le parti d'Angela Merkel, la CDU, tente depuis des mois de se distancer de son ancien mentor. Le nouveau patron de la CDU, Friedrich Merz, un ancien rival de la chancelière, a de bonnes chances de gagner les élections en février. La page Merkel serait alors définitivement tournée, selon Stefan Cornelius.
On a deux styles complètement différents. Friedrich Merz est un homme politique classique pour la CDU, originaire de l'Ouest catholique de l'Allemagne, et il est nettement plus conservateur qu'Angela Merkel.
L'un des principaux reproches adressés à Angela Merkel est de ne pas avoir suffisamment investi dans les infrastructures du pays lorsque les caisses de l'État étaient pleines. L'Allemagne accuse aujourd'hui notamment du retard en matière de numérisation et d'électromobilité. Delphine Herbollier, Berlin, RFI.
Un reportage à réécouter sur le site internet et l'application Pure Radio de RFI. De l'autre côté de l'Atlantique, on en parlait dans le journal, Donald Trump promet d'augmenter les droits de douane sur les produits qui viennent de Chine, mais aussi du Canada et du Mexique. Le Mexique qui doit faire face à la pression de ses voisins nord-américains concernant donc leur accord de libre-échange. Les trois pays partagent un marché commun régi par un traité signé en 2019 et qui doit faire l'objet d'une révision en 2026. Mais dans un contexte de guerre commerciale avec Pékin, l'attitude du Mexique inquiète Washington et Montréal. Pendant le G20, le premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré que l'avenir du traité de libre-échange dépendrait des décisions du Mexique sur ce sujet. Bonjour Gwendolina Duval.
Bonjour.
Alors le Mexique doit préciser ses positions.
Le Mexique n'a aucune intention de sortir du traité de libre-échange et veut que ce dernier continue d'exister. C'est la position affirmée par la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum. Elle a même envoyé un signal pour tenter de rassurer ses voisins. Son gouvernement va prochainement présenter un plan pour renforcer son économie nationale et diminuer les importations en provenance de Chine et plus généralement d'Asie. Ici, au Mexique, les déclarations du Premier ministre canadien ont résonné comme une douche froide. Elles accentuent les incertitudes provoquées par les positions agressives de Donald Trump vis-à-vis du Mexique. Les deux voisins du Nord reprochent au pays de servir une triangulation commerciale, c'est-à-dire d'exporter des produits chinois, soi-disant réétiquetés « made in Mexico » aux États-Unis et au Canada, en évitant donc les taxes.
Est-ce que c'est vraiment le cas, Gwendolina? Est-ce que le Mexique sert vraiment de plateforme tournante des produits chinois pour le marché nord-américain?
Le Mexique s'en défend, évidemment. Selon Claudia Sheinbaum, cette idée est fausse. De fait, il est compliqué de parler véritablement d'une triangulation, puisque tant les États-Unis que le Canada importent même beaucoup de produits chinois. Mais la préoccupation vient plutôt de l'augmentation des investissements chinois au Mexique. Et ça, c'est vrai. Ils ont explosé en 2022. Le Mexique, qui veut profiter de ce qu'on appelle le nearshoring, la relocalisation des activités depuis l'Asie vers l'Amérique du Nord, attire de plus en plus les entreprises chinoises. Ces dernières s'installent au Mexique, notamment dans le secteur automobile.
Alors, il y a une échéance. En 2026, le traité de libre-échange entre les trois pays doit être révisé. Normalement, ça doit être une simple révision, mais en réalité, on se dirige de plus en plus vers une renégociation.
Oui, les sonnettes d'alarme ont commencé à retentir au moment de l'élection de Donald Trump. Le prochain occupant de la Maison-Blanche affiche des positions très protectionnistes et il a déjà ouvert la porte à l'idée d'instaurer des taxes sur les envois mexicains pour mettre la pression sur les sujets migratoires ou sur la lutte contre le trafic de drogue. Une chose est sûre, pour le Mexique, c'est impensable de renoncer à cet accord de libre-échange. Il ne fait pas partie du Mercosur, il n'est pas question qu'il y rentre. Son économie est ultra dépendante de ses voisins du Nord, des États-Unis surtout. Ce n'est pas le cas du Canada, qui envoie finalement assez peu de marchandises au Mexique. On sent que la situation a changé. Le gouvernement canadien, lors du dernier mandat de Donald Trump, avait plutôt joué le rôle d'allié. Ce n'est plus le cas. Le Canada s'apprête à avoir des élections compliquées l'année prochaine et donc les trois pays, les trois amis comme on les appelle, vont devoir trouver un nouvel équilibre.
Les explications de Gwendolina Duval, correspondante de RFI au Mexique. L'invité culture ce matin, c'est Tonton Kabeya. L'artiste originaire de la République démocratique du Congo vit depuis 10 ans en Afrique du Sud. Et il se nourrit de cette expérience dans ses toiles qui sont pleines de vie. Son travail est actuellement exposé pour la première fois à la Biennale de Dakar. Kassala Inner City Blues, c'est une grande œuvre entre peinture, sculpture, installation, une sorte de mini-ville avec plusieurs niveaux. En haut, des immeubles du monde entier aux façades abîmées et puis en dessous, des petits personnages qui continuent à vivre leur vie. Il est au micro de Juliette Dubois.
Tonton Kabeya, bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter comment votre carrière d'artiste a commencé ?
Moi, j'étais entre le dessin, le bricolage et les sports. Donc, je commençais avec le basket depuis tout jeune. Je viens d'une famille de sportifs. Donc, le basket avec le rêve de tous les jeunes du monde. Peut-être aller jouer une fois en NBA. Malheureusement pour moi, ça n'a pas marché. Ça a beaucoup tardé d'ailleurs. Donc du coup, voilà, j'étais assez bon dans le basket et l'art. Donc du coup, l'art a pris sa prometté quoi pour le futur. Et je commence à voyager d'ailleurs. Ce que j'attendais avec le basket, c'est voyager, trouver des opportunités en Angola ou n'importe où dans le monde. Avec l'art, ça me donnait tout ça. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas s'accrocher ? Alors c'était mes débuts d'aventure quoi.
Vous vivez depuis 10 ans en Afrique du Sud. Pourquoi ce choix d'expatriation ?
Il y a encore des artistes au Congo qui sont bien installés, qui voyagent, qui bougent. Mais moi, je pense que c'est cette idée d'aller vers l'autre qui m'intéressait. Comme j'aime voyager, découvrir, mais faire évoluer par les échanges en habitant chez l'autre. Alors ça, c'était intéressant pour moi que de rester au pays. Alors, contrairement à mes amis artistes qui sont partis en Europe, moi j'ai décidé l'Afrique, quoi.
Et alors, comment est-ce que votre vie à Johannesburg vous inspire dans votre travail d'artiste ?
L'Afrique du Sud m'a beaucoup influencé, surtout sur les côtés sociaux. L'Afrique du Sud a une infrastructure assez développée. On a par exemple ce qu'on appelle le complexe. Le complexe, c'est des bâtiments où beaucoup de familles vivent. Ça peut aller jusqu'à 300 appartements. Donc c'est aussi le réseau social qui existe aujourd'hui, où on peut facilement avoir des amis dans le monde qu'on n'a jamais rencontrés, qu'on ne rencontrera jamais, alors que dans ces complexes, il pourrait avoir un potentiel partenaire de business ou d'amitié, mais on s'intéresse beaucoup au réseau social. Donc du coup, c'était ça qui m'a poussé à créer cette œuvre au départ.
Alors là, on est devant une très belle œuvre, une installation très complexe avec des façades défoncées et des enseignes de commerce mexicains, éthiopiens ou encore israéliens. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ?
Je me sentais un peu uncomfortable que de parler d'Afrique qui va pas. Je pense que le monde entier ne va pas, quoi, ne va pas bien. Je m'étais dit que pourquoi ne pas faire quelque chose d'assez universel, d'assez global, parce que ce qui se passe en Afrique du Sud, au Congo, c'est la même réalité en Amérique du Sud, aux États-Unis, en France, partout dans le monde. C'est pour ça que l'œuvre est devenue très complexe. Alors, je commençais à intégrer des designs de fenêtres qui sont typiques sud-américains ou grecs ou arabes.
C'est votre première biennale de Dakar. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être exposé ici aujourd'hui ?
C'est les plateformes les plus importantes en Afrique, je crois. Être ici, je crois, c'est déjà une façon pour moi de me sentir bien dans le sens où mon travail est reconnu sur le plan continental. Parce que voilà, il y a des grands noms qui sont passés à la Biennale de Dakar, que j'ai admiré. Certains étaient même mes mentors. Et être là aujourd'hui, je pense que c'est un pas vers l'avant. Et voilà, il y a encore beaucoup à faire. Mais Dakar, c'est un passage important pour tout jeune artiste du continent, mais aussi de la diaspora.
Merci beaucoup, Tonton Kabeya.
Voilà, Tonton Kabeya, interrogé par Juliette Dubois.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
Et au lendemain de la Journée mondiale contre les violences faites aux femmes, Caroline Paré revient sur ce sujet avec son invité.
Professeur Florence Thibault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychiatrie et d'addictologie à l'Université Paris-Cité. Les violences sexuelles peuvent prendre plusieurs formes au sein du couple. Lesquelles ?
Alors, ça peut aller du féminicide, en passant par les tentatives de féminicide, et plus généralement du harcèlement qui peut conduire à des tentatives de suicide ou à des suicides de la victime. Et en fait, quand on regarde le nombre de féminicides et le nombre de tentatives de suicide en lien avec du harcèlement au sein du couple, c'est 7 fois plus que le nombre de féminicides. Donc ça veut dire que ça concerne beaucoup plus de femmes. Ça concerne en fait non pas les 93 féminicides de 2023, mais presque 800 femmes qui ont en tout été victimes. Et puis, ça peut être des violences psychologiques, des violences physiques, des détournements économiques, en particulier en Afrique, et aussi des violences sexuelles.
Et précisément, qu'est-ce qui entrave aujourd'hui la dénonciation de l'une de ces violences, à savoir le viol conjugal ?
La peur, la relation d'emprise de l'époux et la peur.
Et en termes justement d'écoute et de prise en charge de cette violence spécifique, est-ce qu'il y a vraiment des choses à changer, des bouleversements pour qu'il y ait une meilleure prise en compte ?
Sur le plan du dispositif judiciaire, je dirais qu'on a les outils. Mais par contre, ce qui manque, c'est de les aider, les accompagner pour aller en parler, pour oser porter plainte et puis surtout pour aller vers des systèmes de soins. Et de manière plus générale, il faut les prévenir. Donc il faut les prévenir dès l'école maternelle, avec de l'éducation à l'égalité, au respect, à la non-violence et à l'expression de la masculinité différemment.
Merci professeur Thibault. Vous êtes aussi la présidente de la section santé mentale des femmes de l'Association mondiale de psychiatrie, la WPA. Aujourd'hui dans Priorité Santé, vos questions sur le paludisme, prévention, prise en charge. Où en sont les campagnes de vaccination pour les enfants en zone endémique ? Priorité Santé à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Merci beaucoup Caroline Paré. Il est 5h25 à Paris. On termine avec un peu de musique sur RFI et des airs brésiliens de Bossa Nova ce matin. De vous à moi, c'est l'un des titres du dernier album de Flavia Coelho et c'est le choix des programmateurs de RFI.
Sous le soleil du printemps, vous êtes l'étoile, mon ciel brillant. La fin du monde avance à grands pas. J'ai pas peur de la mort, mais je meurs d'envie de vous voir. De vous sentir tout près de moi, passer par là, me dê um beijo. Passou parfum de mélodrama, passou rayon de lumière, déclenchant de flamme. Je revenu sous mes pas, la solitude a effacé, la joie de mon célibat. J'aimerais vous inviter à une vie, de ma coccinelle à couleur mirabelle. Être la plus belle à vos yeux, l'automne d'un tour, me dê um beijo. Só namorar você de segunda a sexta, antes do mundo acabar e a nossa hora chegar. Allez, je vous emmène dans les champs de lavande. Manda la main des amoureux qui n'ont rien à craindre. C'est l'air de tes enfants, il y aura plein de gamins. Cascade d'émotions qui m'entraînent vers l'océan. J'ai replongé la tête en premier, sans savoir nager, só por un beijo.
nous à moi Flavia Coelho pour se réveiller dans la playlist du mois sur RFI Musique. Elle sera notamment en concert à l'Olympia à Paris le 12 mars 2025. Bon réveil sur RFI.
Pourquoi RFI dit ça ? Juliette Rangeval.
Rendez-vous tous les vendredis pour éclairer le travail de la rédaction et des équipes des magazines de RFI à l'antenne, comme sur le numérique. Nous répondons à vos questions pour vous expliquer les contraintes et le fonctionnement de la fabrique de l'information.
Écoutez Pourquoi RFI dit ça avec Juliette Rangeval. Tous les vendredis à 11h10 et 19h41 sur RFI.